J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui monte sur scène. Elle se dit que parfois c'est l'endroit au monde où elle se sent le mieux. Elle monte sur scène et elle se laisse traverser par les émotions de son personnage. Mais qu'est-ce qui se passe au juste quand elle monte sur scène? Et surtout, quand elle y est si bien? Quand soudain ça marche comme un surgissement, une évidence, une présence? Quand enfin elle est ce personnage? Est-ce que ça veut dire qu'il lui faut jouer à être une autre pour devenir pleinement elle-même? Est-ce qu'elle va nécessairement chercher quelque chose de vrai en elle? Mais alors, qu'est-ce qui est du jeu et qu'est-ce qui n'en est pas? Et quand elle se retrouve le soir au resto avec ses potes, qu'est-ce qu'il reste en elle de ce jeu? Qu'est-ce qu'il reste en elle de celle qu'elle a été l'après-midi? Mais au fond, cette question ne se pose pas simplement aux comédiens, pas simplement aux acteurs. Regardez le garçon de café dont parle Sartre dans L'être et le néant. Lui n'a pas besoin d'être sur une scène de théâtre pour jouer à être ce qu'il est. Et pensez dans votre entreprise à cette terrible N+1, pensez à cette dernière réunion, cet enfer sans fin. N'était-elle pas, elle aussi, en train de jouer son rôle comme un bon petit soldat? Et même quand nous pleurons, pleurons-nous vraiment toujours au premier degré? Est-ce que parfois on se regarde pas un peu pleurer? Nos émotions ne seraient alors que des signaux que nous nous envoyons en bons animaux sociaux que nous sommes. Oui, peut-être, mais pas seulement. Il y a bien ces moments où la vie nous prend, nous révèle, nous traverse. Parfois, nous cessons de jouer. Et si c'était ça, la présence? Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir une femme qui va, j'espère, nous éclairer. Actrice, comédienne, réalisatrice, scénariste, primée à Cannes dès 1997 pour son premier court-métrage, puis en 2015 pour son rôle dans Mon Roi, Molière de la meilleure comédienne dans un spectacle de théâtre public en 2024 pour son rôle dans Après la répétition Persona, mise en scène par Ivo Van Hove. Emmanuelle Bierco est avec nous ce matin sous le soleil de Platon. À l'affiche dans deux jours, aux côtés de Marine Wacht, de Grégoire Collin et de Neil Schneider, de l'excellent Bad de Guillaume de Fontenay, elle nous a fait la grâce d'apparaître ce matin dans la caverne de France Inter. Et en sa compagnie, nous allons nous demander tout simplement si la vie n'est qu'un jeu.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Emmanuelle Bierco.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là, ça fait très plaisir. On va entrer directement dans le vif du sujet.
Ah bah, vous avez un peu tout dit dans votre introduction, je ne sais pas si je pourrais être plus brillante que vous là-dessus. Je veux juste rectifier quelque chose, je n'ai pas eu le Molière en 2024, j'ai juste été nominée, parce que je n'ai pas volé le...
Ah bah, merci de cette rectification, voilà. C'est déjà bien. Pour moi, vous l'avez eu, de toute façon, donc ça ne change rien. Mais j'ai pas tout dit, j'ai fait que poser des questions. Et vous, donc, vous avez plein de rôles dans le cinéma et au théâtre, aussi bien d'un côté de la caméra que de l'autre. Pour commencer, la question la plus simple, c'est est-ce que dès que vous jouez, vous jouez, ou est-ce que vous allez toujours chercher quelque chose de vrai que vous avez, par exemple, déjà ressenti, tout simplement?
Bah, moi, tout mon travail consiste à essayer de ne pas jouer. Ou alors à jouer, à ne pas jouer.
D'accord, voilà. À être naturel.
Mais parce que c'est ce que j'aime. On peut tout à fait... je peux aussi aimer la composition, mais... En tout cas, dans la plupart des rôles qu'on me propose, donc plutôt de cinéma réaliste, où il s'agit d'être le plus juste possible, il me semble que le bon chemin, en tout cas le mien, c'est d'essayer d'abord de m'oublier totalement, de ouais. penser que je suis la personne que j'interprète, c'est-à-dire d'oublier toutes les choses tangibles de ma vie et de ce que je peux être, et de... C'est ce que moi j'appelle ça de dévisser, c'est-à-dire ouais. de perdre conscience un petit peu.
Mais ça c'est pour le cinéma. Mais au théâtre, je ne sais peut-être pas comme ça que vous le vivez, mais il y a parfois un art théâtral où clairement ça joue un peu faux, presque volontairement pour montrer que c'est du théâtre. Dans ce cas-là, on ne peut pas avoir le naturel que vous évoquez. Vous voyez ce que je veux dire ?
Si, parce que ce que j'appelle le naturel, finalement, c'est la sincérité. On peut très bien avoir une grande sincérité avec un jeu un peu stylisé. Notamment quand, je veux dire, vous pouvez très bien, sur une scène de théâtre, avoir à d'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, avoir à délivrer une crise de larmes, alors là qui est forcément sincère, parce qu'on ouais. ne vient pas vous rajouter des fausses larmes, etc. Donc ça vient de quelque chose de très profond, du plus profond de votre être à vous. Tout ça au sein d'un jeu ou d'une diction un peu pas forcément naturelle. Donc c'est la sincérité ouais. qui compte, et la sincérité, elle peut s'inviter partout.
Et quand on le refait tous les soirs, pendant 100 soirs de suite?
Eh bien ça, c'est un grand mystère. Je ne sais pas... En fait, moi j'ai toujours dit, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne. Je sais le faire, mais je sais pas par où ça passe et je crois que j'ai pas envie de savoir par où ça passe. J'ai l'impression que si je comprenais, peut-être je...
Vous êtes un peu mystique, quoi.
Ouais, je suis un peu mystique.
Vous avez dit sincérité. Sincérité ou authenticité ?
Bah alors, pour moi, c'est un peu la même chose, mais vous allez sûrement m'expliquer la nuance. Moi, je sais que oui, je m'efforce toujours d'être authentique.
Ouais.
Et c'est vrai que j'associe la sincérité à ça, mais peut-être je me trompe.
Alors on va écouter Maurice Fiala qui parle, lui, de naturel. Peut-être que c'est ça, en fait, qui va réconcilier les deux mots. Et je précise évidemment que l'émission s'appelle « Sous le soleil de Platon » en hommage au soleil de Satan de Fiala.
Le goût que j'ai d'un certain jeu, c'est vrai que ça va dans le sens du plus grand naturel possible. En fait, ce naturel, il est, pense pas qu'il puisse être continu sur une scène et qu'il y a toujours conscience chez tout le monde, du jeu, de l'enregistrement, et que donc c'est, disons, une façon de jouer sobre, qui paraît très proche du naturel, mais je ne sais pas s'il est tant que ça. Je crois que les comédiens vont peut-être pas beaucoup aimer ce que je vais dire là, mais on leur attribue beaucoup de qualités qu'ils n'ont peut-être pas forcément.
C'est marrant, non ?
Oui, mais le naturel, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Enfin, moi, je comprends ce qu'il veut dire parce que d'abord, je suis une très grande fan de son cinéma que je connais bien et je vois bien que chez lui, il y a quelque chose d'organique chez les acteurs plutôt que de naturel. Parce qu'en vrai, un naturel, c'est quoi ? Moi, il y a plein de gens qui sont naturels dans la vie et j'ai l'impression qu'ils ne sont pas du tout naturels. Et il y a des gens qui, en étant eux-mêmes, sont complètement fantaisistes.
Ouais.
Ou avec une façon de parler qui est hyper maniérée. Ou voilà, des gens qu'on appelle dans la vie des personnages.
Ouais.
Ils sont comme ça dans la vie.
Mais quand vous avez dit que vous dévissez, ça veut dire qu'on comprend l'idée que vous disparaissez de vous-même et le personnage prend toute la place. Là c'est quand même... ça se travaille comment pour arriver à ça ?
Le personnage prend toute la place. En même temps, c'est délicat de dire ça. Moi, je ne crois pas non plus au personnage.
Ouais.
Je crois à l'espèce de fusion entre quelque chose qu'on vous donne à jouer qui ne sort pas de votre tête puisque vous avez appris des lignes.
Ouais.
Mais que si on vous a choisi, c'est quand même pour avoir quelque chose de vous. Donc il ne s'agit pas de complètement disparaître. Non, mais de toute
bien
façon,
sûr,
là, vous me faites
ça.
M'exprimer sur un truc qui,
mais
reste
c'est vachement intéressant.
Qui reste pour moi totalement mystérieux. Je vous ai dit, moi, j'ai pas les... Moi, je passe des heures, des journées entières à réfléchir à ce que c'est que de jouer, à ce que c'est que ce métier d'acteur, et j'ai toujours aucune réponse. Donc... On peut sans doute en discuter sans fin. Mais moi, quand je dis dévisser, c'est perdre pied, être totalement soi-même. Alors, vous allez me trouver encore un peu mystique, mais je pense que dans la vie, on n'est jamais totalement soi-même. Et que pour jouer, justement, moi, j'ai le sentiment que c'est le seul moment où je peux être totalement moi-même. C'est-à-dire sans aucun artifice, sans aucun jeu, sans...
Plus que le soir avec vos amis.
Bah, le soir, avec mes amis, je suis dans un rapport social. Alors moi, sachant que je ne suis pas... Moi, je suis un peu un cas particulier. Je ne suis pas quelqu'un qui parle, déjà. Je ne suis pas quelqu'un qui aime communiquer. Donc déjà, la vie sociale, pour moi, c'est très compliqué. Je fais beaucoup d'efforts.
Même avec quelques rares personnes ?
Oui, enfin, moi, d'accord. Déjà, parler, là, je suis en train de le faire. C'est vraiment un vrai effort. Donc là, je ne suis pas moi-même.
Parce désolé.
Que si j'étais moi-même, je ne parlerais pas. Donc vous n'auriez aucun intérêt à me recevoir. Et puis moi, dans la vie, je passe beaucoup de temps aussi à cacher mes émotions. Étant une personne très émotive, ça me prend beaucoup aussi d'énergie de cacher tout ce que je peux ressentir, de peur, de timidité, d'envie de pleurer.
Vous alors pensez que vous êtes hypersensible pour être
précis. Ah, moi, je pense... Je ne suis pas fait diagnostiquer, mais je suis hyper émotive. C'est très chiant dans la vie de tous les jours, mais dans mon travail, c'est hyper utile. Et donc là, je peux être totalement moi-même, puisque d'accord. Je sais que cette émotivité, elle va me servir à tous les moments de ma journée de travail.
Alors, je voudrais qu'on prenne un exemple concret d'un rôle. Prenons votre rôle dans Mon Roi, juste pour avoir un exemple, pour montrer là comment vous l'avez travaillé pour arriver à ce naturel et à cet art de ce que vous avez joliment appelé dévisser. Juste pour qu'on comprenne le travail, comment ça peut se faire.
Mais... Il y a, par exemple, le personnage dans Mon Roi, c'est quelqu'un qui est très loin de moi. C'est pas du tout... D'abord, c'est une histoire, une relation que je n'ai jamais vécue, que je n'ai jamais connue. Donc je ne peux pas reproduire des choses que j'aurais vécues dans ma propre vie. Le travail, c'est d'abord très bien connaître le trajet de son personnage, etc., pour savoir où on en est dans l'histoire. Mais après, le travail sur l'émotion...
Ouais.
En vrai, pour moi, il passe par une seule chose, c'est la concentration. C'est-à-dire que quelques semaines avant le tournage, je suis déjà concentrée Et quand je ne suis pas en train de jouer le matin, quand je me fais maquiller et tout, je suis déjà dans ce que je vais avoir à jouer dans la journée ou le lendemain. Ouais. Donc c'est principalement de la concentration. Et par cette concentration, j'imagine que j'aboutis à ce lâcher-prise dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que je vais pouvoir me mettre dans absolument tous les états nécessaires sans avoir à réfléchir et sans avoir à le fabriquer.
Ouais, c'est très beau ce que vous dites. Parce que
c'est une inconscience,
en fait.
De la
concentration pour arriver au lâcher-prise, du travail. Vous savez, il y a une belle phrase, je ne sais plus de qui elle est, que de travail il faut pour effacer le travail. C'est ça, en fait, préparer un rôle.
Mais je pense que chacun a sa manière. Moi, je sais que c'est la mienne. Quelque chose que les gens savent peut-être pas, mais enfin, moi, comme j'aime bien les rôles un peu à performance,
ouais.
Je compare vraiment beaucoup ça au sport. C'est-à-dire qu'on va devoir sauter, je sais pas, en saut à la perche, je sais pas combien sont les exploits, mais mettons, il faut que je saute à 5,70 m vers 17h aujourd'hui, et je ne sais pas si je vais y arriver. Et je sais que je dois y arriver parce que en fait je suis payée pour ça. Et si je ne donne pas au metteur en scène le niveau d'émotion qu'il a imaginé pour sa scène, je sais que je vais le décevoir et probablement endommager son film. Donc c'est une pression énorme. J'aime cette idée qu'il faut que je performe et que je ne suis pas sûre d'y arriver.
Je comprends mieux la comédie que vous avez faite sur les JO.
Oui.
juste un truc, c'est quoi un rôle à performance?
Un rôle à performance, c'est moi qui le définis, mais en vrai, je pense que c'est un rôle qui peut être spectaculaire par les états, parce que l'acteur donne à l'écran.
D'accord.
En intensité, que ce soit par exemple dans les émotions ou dans, par exemple, aussi, parce qu'on peut prendre l'exemple de La Môme, par exemple, qui est en soi un exploit de...
Ouais.
D'imitation, enfin, ça va bien au-delà de l'imitation, mais enfin, il faut aussi produire la ressemblance avec Edith Piaf, en l'occurrence. Bon, ouais. ça, c'est une performance qui est incroyable, mais il peut y avoir aussi des performances qui sont moins spectaculaires, qui sont tout simplement de se mettre dans des états... Non, mais c'est vraiment proche du sport, hein. Pour moi, c'est vraiment de l'athlétisme d'émotion, quoi. Parce que... Et puis au théâtre, parfois, j'ai fait des pièces où il faut pleurer sur tel mot, et si je pleure sur deux mots avant, c'est chiant. Et c'est très dur d'arriver à... Vous imaginez le travail d'équilibriste pour pleurer sur tel mot et pas une fois. C'est... Là, il faut le refaire 50 fois ou 100 fois selon le nombre de... Donc c'est de l'ordre du sport, finalement, mais émotionnel.
Sport de haut niveau. À propos d'exploit et de sport, dans Après la répétition Persona, vous jouez nu au début. C'est particulièrement, par rapport aux émotions, ça doit être assez fou.
Oui, là, si vous voulez, c'est... Pour moi, ça peut bien expliquer ce que c'est aussi, cet abandon dont j'essaye de parler. Moi, personnellement, nu, je vais jamais me mettre nu, même chez moi... devant quelqu'un dont je suis très proche, c'est impossible pour moi, j'ai toujours été hyper pudique. Et qu'est-ce qui fait que j'arrive à accepter d'être nue devant 1000 personnes et devant un metteur en scène et des partenaires?
Charles Berling, en l'occurrence.
Charles Berling, enfin là, en l'occurrence, c'était plus Justine Bachelet. C'est, je pense, cet état d'abandon qui fait que vous n'êtes plus vous-même. Donc c'est pas moi qui me mets nue, je sais pas comment vous dire.
Ouais, c'est dingue.
Parce que moi, je me mettrais pas nue.
Et en même temps, qu'est-ce qui vous habille, du coup, quand vous êtes nu? Je sais pas, le jeu, peut-être.
Ce qui vous habille beaucoup, quand même, au théâtre, c'est la lumière.
Ouais.
Et puis moi, j'avais ce que j'appelais mon costume. J'avais des grosses veines dessinées sur tout mon corps. Et quelque part, heureusement que j'avais ça, parce que je me sentais quand même habillée par ces peintures sur mon corps. Et c'est simplement que c'est plus moi, c'est quelqu'un d'autre qui est là, en l'occurrence cette femme de persona, et que c'est pas moi qui ai ce travail de me mettre nue. Mais ceci dit, je l'ai fait là, mais je le referai plus.
Pourquoi ?
C'était la dernière fois. Parce que c'est dur quand même. Parce que malgré tout, même si je m'oublie, etc., quand même on s'expose beaucoup, quoi.
Ça a laissé des traces ?
Non, ça n'a pas laissé de traces. Mais c'est vrai que je me suis dit, parce que aussi j'atteins un certain âge, je me suis dit, là, je pense que c'était le dernier moment pour moi d'arriver à faire ça, et je ne le ferai plus. Et par exemple, au cinéma, pour moi, c'est hors de question. Aujourd'hui, j'en ai fait plein, des scènes de nu et tout, mais je ne pourrais plus du tout faire ça.
Mais au théâtre, c'est quand même pas pareil.
Ah non, c'est pas du tout pareil.
Je précise qu'on parlait de cette pièce après la répétition Persona, d'après Ingmar Bergman, mise en scène par Ivo van Hove. Et évidemment, ce qui nous intéresse dans le sujet, c'est que Persona, ça veut dire étymologiquement le masque de théâtre. Et c'est aussi l'étymologie d'une personne. Manière de dire que peut-être, pour devenir la personne que nous sommes, il nous faut jouer avec des masques sociaux.
Trouble in mind, I'm blue. Someday, trouble in mind, I'm slow. My poor heart is beating so slow. I never had so much trouble in my life before. Yeah, I'm going down to the river.
C'était Nina Simone, Trouble in Mind.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin, sur France Inter.
T'as l'air fatigué.
Depuis quand la DGSE vend des armes à Daesh?
Nous allons sauver des vies.
À quel prix?
À tout prix.
Voilà Emmanuel Berco, c'était un extrait de Bad, le film à l'affiche duquel qui sort dans 2 jours en France. Un très bon film d'action de Guillaume de Fontenay. Et là, vous jouez une méchante, qui n'a pas beaucoup d'émotions pour le coup.
Non, mais c'est aussi assez agréable hein, de jouer. Je joue aussi une femme qui parle peu, donc ouais. Ça j'aime bien parce que ça me correspond bien. Et une femme de pouvoir, ce qu'on me demande assez souvent d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi.
Ah.
Bah, on me sollicite assez souvent, surtout ces dernières années, là, pour jouer des femmes de pouvoir. Et donc, elles sont rarement gentilles, j'avoue.
Ouais.
Mais c'est toujours aussi très intéressant d'explorer ça. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très loin de la vie que je peux mener et qui doit m'emmener ailleurs. Mais là, je dois totalement fantasmer sur ce que ça peut être que d'être une femme de pouvoir, puisque je ne sais pas ce que c'est.
Et en
revanche,
plus,
les émotions, souffrir, etc., je sais ce que c'est.
Il faut quand même expliquer un peu le pitch.
Oui.
Cette femme, elle travaille dans les services, une unité spéciale des services secrets français, qui va en gros tuer en Syrie des gens qui pourraient commettre des attentats, des djihadistes, des gens de Daesh.
Tout à fait, mais qui est obligée aussi de manigancer avec eux. Enfin, voilà, c'est tout un système de réseau.
Et qui n'hésite pas à faire de la casse parallèle, soit dans son équipe, c'est ça le sujet, soit évidemment avec des femmes et des enfants en Syrie qui sont les proches des djihadistes. Donc il y a la question éthique, c'est un film sur la raison d'État aussi, qui pose une belle question, jusqu'où on peut aller pour servir son pays, et puis que vaut une vie, parce que là, il s'agit de tuer des femmes et des enfants là-bas pour en sauver chez nous, en gros. Et donc, ça pose des belles questions. Et vous, vous êtes celle qui dirige un peu cette unité et qui est en conflit avec le personnage qui est joué par Marine Vact et qui aurait dû, en fait, je ne spoil pas trop, mais qui aurait dû disparaître dans une opération, mais qui s'en est sortie et qui va se venger. Voilà.
Voilà. Bah, je suis celle qui tire... qui tire les ficelles, mais vous voyez, par exemple, c'est marrant parce que sur ce film, donc j'ai cette figure de la femme de pouvoir, etc., mais on ne sait pas grand-chose sur elle, donc c'est toujours oui. aussi assez difficile parce que d'incarner juste une fonction, c'est-à-dire les gens, on ne sait pas qui ils sont dans leur vie. Ça, très souvent, quand on a des seconds rôles comme ça, c'est le cas, je trouve toujours ça un peu périlleux, parce que qui on est à part être une directrice de la DGSI, une présidente de la République, qui on est à côté, moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais souvent, il n'y a pas de place pour raconter ça. Et donc, c'est la difficulté, c'est d'essayer de quand même donner de la chair et de l'émotion à des personnages qui sont comme ça, dans une image un peu cliché.
C'est intéressant ce que vous dites, c'est la première fois que je l'entends, que jouer un second rôle, ça veut dire qu'on doit plus, en quelques scènes courtes, dire l'essentiel de ce que les gens ne savent pas.
Oui, si on a la place pour le dire, parce que très souvent, dans les seconds rôles, peut-être pas dans les très grands scénarios, mais en tout cas, dans les seconds rôles, on est fonctionnel, c'est-à-dire on est là pour faire avancer l'histoire.
Mais c'est pas le cas, là. Là, vous êtes un second rôle passionnant, ouais, très trouble, très étonnant.
Oui, puis mystérieux. Non, c'est ça que je voulais vous raconter, parce que c'est une anecdote marrante, même si le spectateur le verra pas en voyant le film. Mais, par exemple, le réalisateur ne savait pas comment il voulait finir son film. Et il y avait deux options, en fait. Soit j'étais une salope, soit j'étais complice de Marine Vact. Donc, à chaque fois, finalement, j'avais à jouer les scènes dans les deux versions.
C'est
vous voyez
dingue,
ce que
ouais,
je veux dire
sûr.
Et ouais, c'était assez dingue,
il
parce que du coup, je pouvais pas me dire, bon, bah, mon personnage, c'est ça, il faut que je joue comme ça. Il fallait que je sois vraiment, que je puisse jouer un truc et son contraire. Et puis, il a choisi, finalement, il a pris l'option qu'il a pris
pas.
Pour son film.
Ouais.
Voilà. Mais c'est, ça veut dire qu'un personnage, bah, ça n'existe pas, en fait.
Ouais, ouais. J'ai pensé à Grand Torino de Clint Eastwood, parce que dans Grand Torino, bah, c'est l'histoire d'une vengeance, comme plein de films. Mais à la fin, il y a une surprise qui est géniale dans ce... Bon, vous connaissez sûrement la fin de ce film. Et là, il y a quelque chose qui, par analogie, m'a fait penser à ça. C'est-à-dire qu'on est comme ça, tenu dans cette logique de vengeance, et puis autre chose va arriver, je ne dirai pas quoi. C'est aussi un film sur la mort, quand même.
Les gens ne vous voient pas, mais vous avez un regard très intense, tout d'un coup. Oui, c'est un film sur la mort. Bah, comme vous le disiez, quel est le prix... Pour les gens qui travaillent dans ces domaines-là, qui sont d'ailleurs des domaines qu'on ne connaît pas puisqu'ils sont secrets,
ouais.
Donc, que ce soit pour les agents secrets, les gens qui travaillent à DGSI, DGSE, ou même les gens de Daesh, enfin, ce sont des gens qui ils vivent avec la mort, ça fait partie de leur vie, si
et
je
oui.
puis dire cette formule un peu bébête. Mais oui, la mort est une constante quotidienne de leur vie. Et je pense qu'on s'y habitue, donc c'est peut-être moins grave pour eux que pour nous.
Mais c'est aussi un film qui raconte, sans le dire directement, que peut-être des chefs d'État occidentaux, démocrates, ont des morts sur la conscience. Et on pense à François Hollande qui aurait commandité l'assassinat de djihadistes français pour pas qu'ils reviennent en France. Donc ça parle un peu de ça, en fait, sans le dire.
Oui, ben ça parle. Voilà, là, je suis pas compétente pour enchaîner sur ce que vous venez de dire. Hein. Mais en tout cas, oui, ça parle des compromis.
J'ai dit François Hollande qui aurait au conditionnel.
Non, évidemment. J'ai bien compris. De toute façon, il se passe plein de choses souterraines qu'on ne connaîtra jamais et que je pense on n'est même pas à deux doigts d'imaginer. Mais il se passe des choses, ça, c'est sûr.
Alors, je voudrais qu'on revienne au thème de l'émission. On l'a abordé pour l'instant du point de vue de vous comme comédienne, comme actrice, mais vous êtes aussi réalisatrice et scénariste. Du coup, comment vous travaillez quand vous cherchez un rôle? Parce que je pense que là, en ce moment, il y a un appel à casting pour votre prochain film.
Ouais, complètement.
J'ai vu ça depuis deux jours et je trouvais ça marrant. Un appel très public qu'on voit dans la PQR, etc. Et comment vous travaillez quand vous cherchez comme ça des comédiens pour des projets que vous allez réaliser?
Bah, il y a deux choses différentes. D'abord, très souvent, moi, j'écris pour les comédiens. Et très souvent, ça a été les mêmes, Catherine Deneuve et Benoît Magimel. Donc ça, c'est un travail qui est particulier parce ouais. que je sais, avant, je les projette déjà dans le film que je me fais dans la tête. Et en écrivant, j'écris en les entendant.
D'accord.
Donc j'écris pour eux. C'est tout à fait différent qu'un travail comme celui que je fais en ce moment, qui est d'aller chercher quelqu'un dans la rue, si je puis dire. Mmh. Donc quelqu'un qui d'abord ne sera pas forcément acteur, probablement pas, puisque là je cherche un jeune de 16 ans.
Et, vous voulez faire une adaptation du livre de Chalandon?
Ouais, L'Enragé, du livre de Chalandon, L'Enragé, pour lequel on cherche en ce moment un jeune garçon aux alentours de 16 ans. Et là,
Donc il est peut-être là, en vacances, dans sa cuisine, en train d'écouter l'émission.
Alors j'espère qu'il nous écoute, et je lui demande de se manifester au plus vite. Ouais.
Il doit être comment?
Le film s'appelle L'Enragé, et L'Enragé c'est lui, et son surnom c'est La Teigne.
D'accord.
Donc je pense que ça
rebelle,
dit tout.
Énervé,
jeune rebelle, très énervé, mais aussi très attachant. Enfin, il lui faut énormément de qualités à ce jeune homme, et il faut surtout qu'il soit un grand acteur, parce qu'il va porter le film sur ses épaules.
C'est ça, donc vous retrouvez encore des adolescents, c'est une autre constante de votre travail, enfin, ouais. Quelque chose qui revient souvent. Ça nous ramène aussi aux émotions, puisque à l'adolescence, les émotions sont exacerbées. Je rappelle qu'il y a longtemps, il y avait un court-métrage de vous, La Puce, qui avait fait beaucoup de bruit, qui racontait le dépucelage d'une adolescente par un homme plus vieux, et que vous avez souvent cherché comme ça à aller au plus près des émotions des adolescents.
Ah oui, complètement. En tout cas, c'est ce qui a passionné une bonne première décennie de mon travail de cinéaste. Je pense que j'ai absolument fait tous mes films, téléfilms autour des adolescents. J'ai passé une période de la vie qui m'a toujours totalement fascinée. Peut-être parce que moi, j'ai pas eu... Parce que j'ai cherché une explication, parce qu'on me posait souvent la question. Je pense que moi, j'ai pas vraiment eu d'adolescence pour des raisons de comment s'est déroulée ma vie. Et peut-être qu'à travers mes films, j'ai eu envie d'explorer cette période capitale de la vie que j'avais peut-être eu le sentiment de pas avoir vécu comme les autres.
L'impression qu'on peut avoir devant votre œuvre, c'est que finalement, les histoires... sont un peu des prétextes pour aller au plus près d'émotions, de perceptions, et que dans votre cinéma, il est très vibrant, vous voulez un peu faire ressentir des perceptions, les histoires ne servant que de moyens pour arriver à ça.
Ouais, complètement. Mais moi, c'est vrai que très honnêtement, moins maintenant, mais quand j'ai commencé à raconter des histoires, ça m'intéressait pas tellement. Ce qui m'intéressait, c'était filmer des gens et filmer des gens, si possible, dans des états émotionnels intenses et captivants et émouvants et passionnants pour celui qui les regarde. Et que peu importe par où ça devait passer, mais c'est ça que j'avais envie d'aller chercher. Et c'est pour ça, sans doute, que j'ai orienté mon travail aussi vers l'adolescence, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, on ressent tout de façon tellement... tellement intense, tellement définitive, tellement dramatique, tellement désespérée que voilà, c'était un champ pour moi d'exploration qui était passionnant.
Mais comme vous êtes aussi scénariste, du coup c'est compliqué, parce que quand vous êtes scénariste, vous essayez de construire le scénario en pensant à ça, à ce résultat-là. Pas à la dramaturgie pure, quoi.
Oui, c'est ça, j'écris... quand même, maintenant je suis obligée de... en avançant les années, en n'ayant plus d'expérience, j'essaie quand même de peaufiner davantage la dramaturgie de mes films. Mais en revanche, c'est vrai que chaque scène, j'essaie toujours de la pousser dans l'écriture à son paroxysme d'intensité, même si c'est une petite scène de transition. J'ai envie qu'elle raconte quelque chose et que le spectateur ressente quelque chose, jusqu'au dernier film que j'ai fait de son vivant, qui était un mélo, où là, vraiment, j'ai travaillé le scénario, les scènes, les dialogues, pour faire pleurer le spectateur. C'est une mécanique qui est la même que celle qu'on... du même ordre que celle qu'on peut utiliser pour écrire une comédie.
Ouais, on a souvent l'impression comme ça que vous voulez filmer les gens à fleur de peau, juste avant qu'ils craquent, juste avant de tomber. C'est d'ailleurs le titre de Benjamin Biolay.
Ça valait le coup d'essayer, le coup de la peine dorée, le diable en déshabillé, vêtu de rien qu'un grain de beauté, de beauté. Ça valait le coup d'en finir. Y en a même certains que ça ferait rire. Et d'autres bien emmerdés, bien parfumés, de noir habillés, belles persoles fumées. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler. Vous déclare. immaculée. Je vous prie de me juger à l'aune de vos innombrables péchés. Vos péchés, quant à vous, sur le point de venir, mais que le moindre détail peut meurtrir. Vous qui certes encore confondez voie de départ et voie d'arrivée, corail et intercité. J'écris ça juste avant de tomber. J'ai même pas vu ma vie défiler.
C'est Benjamin Biolay, juste avant de tomber.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Emmanuel Berco, sous le soleil de Platon, et c'est passionnant. On essaye comme ça de comprendre, cher Emmanuel Berco, comment vous construisez un personnage, comment vous le jouez. Et vous nous dites parfois que justement, vous, à un moment, vous ne le jouez plus. Vous êtes devenu ce personnage. J'ai bien aimé cette idée au début de l'émission. On a bien entendu votre philosophie de l'acting, à savoir je travaille, je me concentre, et puis j'arrête de travailler, je dévisse, et puis je lâche prise. Et si je le traduisais avec mes mots, j'aurais envie de dire que c'est comme une maîtrise qui conduit à une immaîtrise. Voilà. J'aime bien cette idée. Je me posais une question, comme vous êtes aussi donc réalisatrice et scénariste, quand vous construisez le personnage en tant que scénariste, qu'est-ce qui est différent par rapport à la construction du personnage en tant que comédienne quand vous préparez le rôle?
Mais en fait, ça n'a rien à voir, puisque quand vous êtes comédienne, tout est là, vous n'avez qu'à le prendre et à l'amener à vous. Après, comme je le disais tout à l'heure, si on vous a choisi, c'est pas non plus pour que vous disparaissiez derrière le personnage.
Oui,
mais moi, je ne crois pas au concept de personnage pour les acteurs. En fait, vous prenez un acteur et ça va être lui, ça va être sa peau, ses yeux, tout ce que vous voulez qui est là.
Comment ça, vous n'y croyez pas ?
Je ne crois pas à ce truc de personnage. En fait, c'est vous qui prenez les mots qui sont écrits par un scénariste. Ouais. D'ailleurs, je dois dire que, par exemple, un acteur qui reçoit un prix, etc., finalement, la personne qui doit remercier, souvent, c'est quand même le scénariste, la personne qui a écrit le personnage, entre guillemets, parce que c'est ça qui fait, les grandes performances d'acteurs, c'est toujours des très beaux rôles, en fait. C'est tout. C'est pas l'acteur.
Vous voulez dire que c'est un peu injuste que souvent l'acteur tire la couverture à lui de fait?
Non, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai qu'il faudrait avant tout. Voilà, c'est surtout des grands rôles. Et on a la chance d'avoir eu un grand rôle. C'est pas qu'on est mieux qu'un autre, c'est qu'on a la chance d'avoir eu un grand rôle. C'est ça qui est. Donc, comme actrice, moi, je reconnais pas ce truc. C'est quoi le personnage? C'est moi. Mais je vais me retrouver quand même pas dans ma vie de tous les jours. Je vais me retrouver avec les mots, les vêtements de quelqu'un d'autre. Mais je vais faire quand même avec ce que je suis. Je peux pas faire sans ce que je suis. Et puis, on m'a choisi. Donc il faut quand même avoir... si on veut avoir l'impression d'avoir sa place sur un tournage, il faut admettre que c'est nous qu'on a choisi et pas machine.
C'est intéressant. C'est comme quand on écoute un grand comique. En fait, le comique, il joue. Il imite quelqu'un d'autre. Mais on est quand même hyper content de le reconnaître, lui, imitant quelqu'un d'autre.
Oui, totalement. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, la preuve que le personnage n'existe pas, c'est un même personnage joué par deux actrices différentes, ce ne sera pas le personnage, ce sera quelqu'un d'autre complètement.
Ouais.
Donc voilà, après quand on écrit, on écrit un personnage, mais la personne qu'on va choisir, ça va être lui en fait le personnage.
C'est-à-dire...
Vous comprenez ?
Non, je comprends pas.
Moi, je m'en fous de l'acteur, en fait, qui va jouer. Je veux... Ouais. C'est la personne qui m'intéresse. La personne qu'elle est dans la vie. Vous, je peux très bien vous donner un rôle demain. C'est vous qui m'intéressez. C'est pas le personnage que j'ai écrit.
C'est intéressant.
Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien. Du coup, ce qui vous intéresse, c'est la rencontre humaine.
Évidemment, je le construis, je le fais parler, je lui donne des émotions, etc. Ouais, mais après, c'est l'acteur que je choisis, pas l'acteur. La personne que je choisis qui va l'absorber. Et ça va devenir lui qui m'intéresse, la personne, pas mon personnage.
J'ai compris, c'est très intéressant, c'est pile notre sujet. Ça veut dire qu'en fait, quand vous faites jouer quelqu'un, vous le faites apparaître lui-même dans ce qu'il est, au travers de ce rôle de personnage,
voilà,
qui est donc secondaire.
Et si je peux, j'aime aller chercher chez lui des choses qu'il n'a pas encore révélées.
Et on retrouve exactement l'idée de Bergman avec le persona, puisque c'est ça aussi qui a été adapté au théâtre avec vous, c'est qu'au fond, le persona, ça veut dire que je ne peux me révéler dans ce que je suis qu'au travers d'un rôle.
Oui, c'est ça. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, je crois profondément... En tout cas, moi, je ne suis moi-même que quand je joue.
Alors, j'ai compris. Mais maintenant, objection. On est quand même sous le soleil de Platon. Donc, il y a du dialogue. Est-ce qu'il n'y a pas des moments dans la vie, et là, je parle à la femme, que vous êtes beaucoup plus, justement, qu'à la comédienne ou à la réalisatrice ou à la scénariste, est-ce que vous ne croyez pas, Emmanuel Bercot, que parfois, eh ben, on arrête complètement de jouer, qu'on ne joue aucun rôle, qu'il n'y a pas de persona au sens du masque social, et que surgit quelque chose de soi, de manière plus pure, dans une présence qui, pour le coup, n'est pas jouée du tout?
Ben si, quand on est seul. Moi, c'est pour ça que j'adore la solitude, parce que je pense que c'est le moment où, d'abord, je suis totalement bien avec moi-même et je n'ai aucun masque à mettre. Maintenant, ça, ce que vous dites là en société, parce que j'imagine que c'est ça que vous entendiez.
Non, c'était une question très ouverte, et j'adore votre réponse, et elle me... m'étonne pas de vous. Vous l'avez dit depuis le début, ça m'étonne pas, et en plus, vous avez beaucoup raconté vos angoisses de mort, vos insomnies, un peu de phobie sociale aussi, donc je comprends votre réponse, mais je pensais aussi qu'on pouvait être dans un abandon amoureux à deux, dans un moment où on arrête de jouer, ou alors dans une émotion esthétique, quand on écoute une belle chanson.
Ouais, ça ouais. Dans l'émotion à deux, dans la relation amoureuse, je trouve que c'est compliqué parce que malheureusement, il y a ce putain de séduction qui, de toute façon, pourrit tout, à mon avis, ou fausse tout. Donc là, ça, je le connais pas, mais dans...
Ah bon ?
C'est vrai que devant l'art,
vous
oui.
Vous n'avez connu que de la séduction à...
Non, mais...
Parce qu'il y a des moments où on arrête de séduire. Quand on est fragile, quand on a une forme de beauté, quand on arrête de vouloir séduire aussi.
Bah, des moments où vous laissez tomber tout le masque, tout le jeu dans une relation intime, je pense que ça peut être effectivement dans des moments de crise, justement, où...
Quand on est quitté, par exemple.
Oui, voilà. Où là, alors là, il n'y a plus rien que le désespoir total et la tentative de retenir l'autre. Et de se montrer tel qu'on est, et souvent sous le pire des jours.
Ouais.
Ça, c'est sûr. Une fois... Non, mais... Parce que vous parlez de relations amoureuses, quand on est dans un amour qui est vraiment installé, qui est vraiment profond, puissant, etc., oui, je comprends ce dont vous parlez, je pense que c'est possible, oui, de le vivre.
Et puis il y a peut-être aussi la vie spirituelle, où on arrête de jouer. Si, si, tant est que
totalement,
ça existe.
Mais ça, moi aussi, je le rattache à la solitude, donc
oui, c'est vrai.
Ce sont des expériences solitaires. Mais moi, seul... Je suis tellement bien seule, et je m'interroge souvent de savoir pourquoi, et je crois que la réponse, elle est dans votre question, c'est...
Ouais, c'est intéressant. Et surtout que vous passez votre vie professionnellement à n'être pas seule.
Ouais.
À faire vous auriez pu faire un art de la solitude. Vous auriez pu être peintre ou écrivaine. Eh ben non, vous êtes réalisatrice, souvent co-scénariste, ironie du sort, et puis évidemment sur des plateaux ou des scènes avec plein de gens.
Ouais.
C'est pour vous faire violence ?
Mais c'est un peu, de toute façon, je suis comme tout le monde pleine de paradoxes, parce que ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'il soit collectif.
Ouais.
Et je tiens beaucoup à mon cercle professionnel, qui rejoint d'ailleurs mon cercle amical. Mais quand même, je peux pas vous mentir, c'est très compliqué pour moi d'être avec des gens toute la journée.
Et en même temps, vous avez des grandes fidélités.
Ça, je suis...
Professionnelle, j'entends.
Je suis profondément fidèle par nature, à tout point de vue, professionnellement aussi. Mais c'est difficile pour moi d'être avec des gens toute la journée, 8 heures d'affilée, tout, c'est vraiment dur. Donc, c'est paradoxal.
Alors, Emmanuel Birko, donc on a parlé beaucoup de vos succès. Vous avez eu beaucoup de récompenses et beaucoup de choses ont très bien marché. Parlons un peu de vos échecs. C'est un sujet que j'aime bien. Si vous deviez identifier, je parle sur le terrain professionnel, votre plus gros échec, ce serait quoi ?
Mon plus gros échec ? Mais j'en ai eu plein.
Le meilleur, le plus beau.
Le plus beau ?
Ou le plus douloureux ?
Je trouve que le plus gros échec, finalement, j'ai fait un énorme échec avec mon deuxième film au cinéma.
Oui. Lequel ?
Ça s'appelait Backstage, c'était sur le sujet de qu'est-ce que c'est que d'être fan. Moi, c'est un sujet qui me passionnait totalement. Je dis pas que le film est pas bien, je sais pas, j'ai jamais revu. En tout cas, ça a été un énorme échec, compte tenu du coût du film et de son nombre d'entrées. Mais à l'époque, c'est bizarre parce que moi, je m'en fichais un peu de... D'abord, j'avais pas d'ambition.
Ouais.
Et je m'en fichais un peu du nombre d'entrées. Pour moi, si 10 000 personnes voyaient mon film, je trouvais ça déjà extraordinaire. Et bon, là, il y en a eu 40 000, donc... J'ai plus vu chez les autres que c'était très douloureux. Mais moi, à l'époque, je ne vivais pas ça de façon dramatique. Non, pour moi, le pire échec, c'est mon dernier film de son vivant, parce qu'il est sorti dans un contexte très compliqué, post-Covid. Et puis surtout, je n'avais pas du tout anticipé que des gens pouvaient avoir peur d'aller voir un film sur la mort et sur le cancer.
Ouais.
Je pensais que comme le film était lumineux, tout le monde serait ravi d'aller le voir. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas voulu aller le voir et qui l'ont vu plus tard en me disant... Je n'ai pas voulu aller le voir, et ça, moi, je ne l'avais pas du tout anticipé. Et donc, le film a fait beaucoup moins d'entrées que j'aurais espéré. Mais là, ça m'a atteint parce que ce sujet me tenait énormément à cœur. Et que je pensais que c'était un film qui pouvait vraiment faire beaucoup de bien à plein de gens. Et voilà, je trouvais ça dommage. Après, bon, par bonheur, les films passent à la télévision, et puis après, beaucoup de gens les voient, donc... Mais c'est vrai que c'est le seul échec qui m'a vraiment un peu bousculé.
De toute façon, il y a échec quand il y a un sentiment d'échec. C'est jamais objectif. Mais là, il y a eu un sentiment d'échec.
Il y aurait un sentiment d'échec terrible si je me suis... Parce que ce film, il me tenait énormément à cœur par son sujet. Et ça aurait été un terrible sentiment d'échec si j'avais le sentiment d'avoir raté le film. Ça, j'ai pas ce sentiment. Dieu sait que j'aime pas tellement ce que je fais, mais là, j'ai pas le sentiment de l'avoir raté. Non, j'aurais voulu... Voilà, ça touche un maximum de gens, parce que je pense que c'est un film qui pouvait être... positif sur la question justement de la maladie et de la mort qui nous concerne tous, qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont faits sur ce sujet, et voilà, mais en vrai, les échecs, je ne les vis pas si mal, parce qu'en fait, comme je m'attends toujours au pire, moi, dans la vie, donc il n'y a pas grand-chose qui peut m'atteindre.
Vous avez donc d'agréables surprises, souvent ?
Bah oui, je peux avoir que d'agréables surprises.
Et pourquoi vous attendez au pire ? Ça vient d'où ?
Bah vous savez, c'est mon tempérament, je suis fataliste, c'est vrai que je suis très pessimiste. Donc je m'attends toujours au pire, du pire, du pire, et donc je suis rarement déçue et rarement malheureuse de mes échecs.
Ouais. Et Emmanuel Birko, qu'est-ce qui vous donne vraiment confiance ? Puisqu'on entend dans tout ce que vous racontez, on entend beaucoup de travail, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse de mort quand même. D'ailleurs, vous avez même fait un film dessus. Et en même temps, vous tracez votre chemin. Vous faites beaucoup de choses, beaucoup de rôles, beaucoup de travail, beaucoup de casquettes différentes, comédienne, actrice, réalisatrice, scénariste. Du coup, la question que ça pose, c'est, au fond, c'est quoi votre driver ? Qu'est-ce qui vous meut ? Qu'est-ce qui vous donne confiance ?
Ce qui me donne confiance, c'est une énergie dans la vie que j'ai, que j'aurai toujours malgré mon pessimisme et toutes mes angoisses, etc.
Ouais.
J'ai quand même un goût de la vie qui est énorme, mais surtout, moi je suis une grande épicurienne, donc déjà, si vous voulez, l'énergie du travail, elle est jouissive au même titre que l'énergie. Moi, j'adore la bouffe et tout ça, c'est ce qui me fait vivre. Et c'est d'être en mouvement, quoi, d'être dans une énergie et d'entraîner aussi des gens derrière soi. Et puis ce qui me donne confiance, c'est beaucoup la confiance des autres, en fait. Parce que quand on fait les métiers que je fais, on ne fait rien si quelqu'un n'a pas confiance en nous. Puisqu'on n'est pas nos propres employeurs.
Mais quand vous avez confiance en un projet, les gens ont confiance. Donc c'est un cercle vertueux.
Oui, enfin, oui, c'est un cercle vertueux, mais c'est vrai que le fait que je sens que des gens ont confiance en moi, ont envie que je fasse des choses, forcément, ça me porte énormément. Si j'étais très isolée dans mon métier, je ne sais pas si je pourrais faire tout ce que je fais avec autant d'entrain et de... et d'énergie et de travail, quoi.
Alors, je voudrais qu'on termine l'émission, Emmanuel Vercot, sur des choses que vous avez souvent suggérées, qui m'intéressent beaucoup. Vous avez parlé d'énergie vitale, vous avez dit « je suis mystique », vous avez parlé d'ésotérisme. Vous pensez qu'il y a quelque chose derrière ce qu'on voit ? Qu'il y a des forces derrière, peut-être. C'est à ça que je pensais quand je vous disais en quoi avez-vous confiance, mais
c'est pas que je le pense, j'en suis totalement convaincue.
Je crois que ça vient de vos parents.
Oui, totalement. Bah, moi, j'ai baigné là-dedans. Ouais. Mes parents étaient tous les deux dans l'ésotérisme, c'est-à-dire que...
Ah bon ? Je crois que votre père était chirurgien, pourtant.
Mon père était chirurgien, était un grand chirurgien.
Mais ésotérique.
Avec tout ce que ça suppose de son côté cartésien, mais ouais, il était aussi extrêmement spirituel et ésotérique Enfin, il a été extrêmement curieux, il a exploré plein de domaines, et ouais, l'ésotérisme a fini l'emporter sur sa rationalité de médecin. Mais bon, chez moi, si vous voulez, on parlait d'ésotérisme, comme chez d'autres, on parle de politique ou
donc
de sport.
Donc c'était normal,
quoi.
Au déjeuner du dimanche, faire tout le tour.
Moi, j'ai baigné là-dedans, ouais, et il y avait tout le temps plein de gens chez moi qui faisaient toutes sortes de ouais, healing.
ouais.
Je ne sais pas si vous voulez traduire.
Non, c'est bon.
On disait spiritual healing, ouais, y avait des voyantes, y avait astrologues. Moi, j'ai totalement baigné là-dedans. Donc pour moi, c'est naturel. Et puis
on ne le voit pas trop dans votre cinéma. Il est plutôt réaliste,
ouais,
vitaliste. Il n'y a pas, ce côté-là.
Concret.
Ouais, concret. Charnel, sensuel,
non, y a
pas fleur de peau.
Ouais, je suis tout à fait d'accord.
Donc cette partie-là, on ne la voit pas.
Bah, c'est vraiment ma vie intime et personnelle qui est faite de ça. Je pense que mon mysticisme, il peut transparaître un peu parfois au travers des films ou surtout dans mon métier d'actrice.
Oui, bah, en tout cas, dévisser,
ouais,
on peut revenir au début de l'émission, dévisser, ça peut s'entendre d'une approche un peu mystique.
Totalement.
Comme si, à un moment, quelque chose d'autre nous...
Bah, je crois que quelque chose me descend, de toute façon.
Ouais.
Oui, je crois que les choses me descendent, et je crois que les idées, elles descendent aussi.
Il y a une très belle page que je vous recommande dans le livre d'Emerson, La confiance, où il raconte ça et dit, en fait, faut arrêter de penser qu'on a confiance en soi, à un moment, la confiance, c'est on ne sait pas en quoi on a confiance, mais c'est là, il est dans la nature, et il dit, je sens bien que quelque chose est là qui me donne confiance. On terminera là-dessus, Emmanuel Vercot. Je vais essayer de dégager la philosophie de la vie qui a été la vôtre. Franchement, elle est très bergsonienne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Bergson, d'un côté, il y a l'énergie vitale, le fait de construire, de faire, d'avoir des projets, de fédérer les autres, très bien. Mais il a quand même fini, Bergson, dans le spiritisme, à faire tourner les tables avec ses amis. Donc on retrouve vos deux dimensions. Et il y a aussi cette idée de la présence, quand même. On a beaucoup travaillé ça ensemble. Et puis, vous avez répondu à la question de l'émission. Il y a un moment où on travaille, on joue, c'est la meilleure façon de montrer sa vérité et que finalement la personne in fine est plus importante que le personnage, même si parfois, et vous l'avez très bien dit, la personne a besoin du personnage pour enfin apparaître. Merci beaucoup, Emmanuel Vercot.
Merci.
Cette émission a été préparée excellemment, merci beaucoup, par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chedebois, et merci pour le sublime titre de Biolay qui allait très bien, Emmanuel Vercot. Et enfin, l'émission a été réalisée par Antoine Larcher avec à la technique Marie Potier.